sommes entre Loire et Loin. C'est l'heure du magazine du Gâtinais sur ses deux ailes. Bienvenue à toutes, à tous. Merci de nous écouter et merci de nous retrouver de plus en plus nombreux chaque semaine sur les internets, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook notamment, où vous retrouvez, comme chaque semaine, toutes les vidéos des interviews que nous réalisons dans le cadre de cette émission. Alors abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et vous connaissez la musique, hein. Je vous propose cette semaine une émission très spéciale, avec d'une part une première, la première chronique d'un personnage bien connu dans notre région, Madame Sacha. Elle viendra régulièrement nous parler d'histoire, avec un grand H, d'histoire, avec un S, et de chansons, avec toute la gouaille et la truculence qu'on lui connaît, vous l'entendrez désormais assez régulièrement sur nos ondes. Nous entendrons également une longue interview d'un autre personnage connu dans le Gâtinais, Claude Sabatier, qui nous parlera de son nouveau livre, le second tome des aventures d'Émile Zola. Et tout ça, ça va donner à l'émission d'aujourd'hui une thématique qu'on peut qualifier de dans l'actualité, puisqu'on évoquera différents aspects de la commune dont nous fêterons le 150e anniversaire ces jours-ci. Ah, la commune, cette période courte de l'histoire, ce rêve, ce fantasme qui fait vibrer nos petits cœurs d'islamo-gauchistes. Allez, on va se plonger un petit peu là-dedans en musique avant de retrouver Madame Sacha.
Quand nous en serons au temps des cerises et guerre aux signaux et merle mon cœur, serons tous en fête. Les belles auront
Sainte-Zelle Radio.
89.3.
Quoi de neuf, madame Sacha?
Oh non, mais c'est pas vrai, là que ça recommence! Mais c'est pas possible! Cette phrase aberrante, vous allez quand même pas me le ressortir à chacune de nos rencontres, petit Weber! Eh ben, ça tombe bien, je vais vous emboucher un coin parce que là, on est en pleine actualité. Voilà, eh ben, écoutez-moi ça!
Il y a 100 ans, comme un. Comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commun, commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot pour défendre Paris. Ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, commun, commune, comme artisans et ouvriers, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier.
Eh ben ouais, Weber, on fête le 150e anniversaire de la commune. Et du coup, on fête également le 50e anniversaire de la fabuleuse chanson de Jean Ferrat. Alors attention, hein, Ferrat il signe la musique et le texte, c'est le talentueux parolier Georges Coulonge qui l'a signé. On lui consacrera d'ailleurs une pastille, un de ses quatre. Il a écrit Coulonge, également Potemkin pour Ferrat. Et puis en 1970, alors qu'on sort donc cet album, La Commune, lui de son côté, il sort un album qui s'appelle La Commune en chantant. C'est une sorte de recueil de toutes les chansons qu'on chantait à l'époque. On en parlera aussi plus tard. On revient à la chanson de Ferrat. Il y a 100 ans, commun, commune, nous chante Ferrat. Alors les communs, les communes, c'est qui? Eh ben, c'est les hommes et les femmes du commun, du peuple, qui pendant 73 jours, du 13 mars au 29 mai 71, se sont révoltés contre ce gouvernement conservateur d'Adolphe Thiers qui vient de signer l'armistice avec Bismarck qui, au passage, a ruiné la France et a chippé l'Alsace et la Lorraine. Alors, qui était ce peuple parisien de 1871? Ferrat nous chante, c'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot. Tiens, c'est marrant ça. Coulonge ne nous parle pas d'ouvriers. Mais c'est qu'en fait, à l'époque, il n'y a pas d'ouvriers au sens où on l'entend de nos jours. Il n'y a pas beaucoup d'usines dans Paris. Elles se trouvent en province, les usines. Les ouvriers parisiens, pour la plupart, eh bien, ils représentent quand même un petit quart de la population parisienne. Eh bien, ils travaillent chez des artisans. Et le travail est précaire. Les enseignes fragiles, nous chante Ferrat. Et les conditions de travail sont très dures. Les 100 coups de rabot, dit-il. Et on doit souvent faire plusieurs petits métiers, en fait, dans la même semaine, parfois dans la même journée, pour pouvoir s'en sortir. Bon, par ailleurs, à l'arrivée des Prussiens en 1870, Paris est dans un chaos absolu. La capitale s'est vidée, en fait, de 150 000 Parisiens aisés qui ont fui en province. Et puis, au contraire, il s'est engorgé de banlieusards, de provinciaux, paysans qui sont effrayés par l'arrivée des Prussiens et qui sont venus se réfugier à l'intérieur des fortifications. Et ils retrouvent là le petit peuple parisien qui a été poussé aux extrémités de Paris à l'époque des grands travaux d'Haussmann. Alors, il y a Montmartre, évidemment, il y a La Villette, il y a Ménilmontant, il y a Belleville, et c'est dans tous ces quartiers que va bouillir la marmite communarde.
Ces Parisiens, ils ont été assiégés par les Prussiens depuis septembre 1870. Ils ont lutté vaillamment contre l'armée d'invasion, ils ont lutté aussi contre la famine, contre le froid. En hiver 70, il a fait moins 12 degrés. Bref, ils ont lutté contre la mort qui a doublé pendant ce siège. Et pourtant, ce peuple parisien affamé ne digère pas l'armistice avec l'ennemi prussien. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles. C'étaient des forgerons devenus des moblots. Dites-moi, mon petit Weber, vous savez ce que c'est que les moblots ? Les moblots, c'est le surnom que la population, en 1870, donna aux gardes mobiles qui étaient incorporés dans la garde nationale. Ces gardes mobiles, ils viennent de toute la France. Il y a des Bretons qui ne parlent même pas français. Et puis, parmi les gardes mobiles, il y en a beaucoup qui sont membres de la Première Internationale. En tout, ce sont 500 000 hommes armés qui défendent Paris. Et c'est pour cette raison que les Prussiens ont préféré le siège à l'affrontement direct. Et en fait, cette drôle d'armée composite et très très belliqueuse inquiète le gouvernement de Thiers et la classe bourgeoise qu'il représente. Et dès qu'il signe l'armistice avec les Prussiens, le 28 janvier 1871, il retire les troupes régulières de Paris et il supprime la solde des gardes nationaux. En fait, il faut désarmer Paris qui est désormais aux mains du peuple en colère. Et le 18 mars 1871, l'armée tente de récupérer des dizaines de canons entreposés sur la colline de Montmartre. Or, ces canons sont symboliques. Ils ont été achetés grâce à une souscription populaire pour lutter contre les Allemands. Et ce sont les femmes du quartier qui vont se rassembler devant les canons et qui vont interpeller les soldats qui, tout compte fait, vont se rallier à la foule. Et vous voulez que je vous dise, mon petit Weber, Eva, il n'y a pas de mystère. C'est bien pour cela que des années plus tard, on a érigé le Sacré-Cœur à cet endroit-là, sur la butte Montmartre. Mais revenons à la chanson de Ferrat. Il y a 100 ans, comme un, comme une, comme un espoir mis en chantier. Ce 18 mars, 1871, eh bien c'est le début de la Commune, face à un gouvernement qui ne trouve rien de mieux que de se réfugier. Vous savez où, Weber ? À Versailles. Bonjour le symbole. La Commune de Paris est proclamée le 27 mars. Elle renie le drapeau tricolore, symbole d'une république bourgeoise, et elle adopte le drapeau rouge. D'autres communes sont proclamées dans les grandes villes ouvrières de France, à Lyon, Marseille, Saint-Étienne, Le Creusot, Grenoble, Limoges, Toulouse, Nîmes, Narbonne, Perpignan, Périgueux et Bordeaux. La Commune de Paris devient alors une expérience de gouvernance prolétaire. Elle est fille de la Révolution française. Elle est fille des révolutions de 1830 et de 1848 et des nombreuses grèves ouvrières qui ont agité le pays depuis 1864. Et cette Commune, elle prône peu ou prou la démocratie populaire, la fin des inégalités sociales, mais également la fin des inégalités entre hommes et femmes. Elle va légiférer la Commune, les grands principes humanistes qui sont à l'origine des avancées sociétales qu'on a connues au XXe siècle, au XXIe siècle, ou qui restent encore à faire. Ainsi, on peut parler de la séparation de l'Église et de l'État 34 ans avant la loi Briand, la reconnaissance de l'union libre, du célibat, du droit au divorce, l'égalité salariale entre hommes et femmes, l'abrogation du travail de nuit obligatoire, la mise en place de coopératives ouvrières pour remettre en marche les usines abandonnées par les patrons, le gel des dettes et des loyers, l'interdiction de l'usure et des retenues sur salaire, la gratuité de l'école primaire et secondaire, de l'université et des musées, l'école laïque, 10 ans avant la loi Ferry, l'accès à l'éducation pour tous, filles et garçons, la création d'un enseignement professionnel et l'interdiction de la prostitution. Et quand on voit ce que la prostitution a généré de richesses à la belle époque, ça laisse songeur. Symboliquement, on détruit la guillotine et la colonne Vendôme, qui est le symbole napoléonien de la barbarie militaire. On légifère sur tout, sauf sur une chose. Sur le droit de vote aux femmes. Et ces femmes, en fait, ont le droit de rester simplement témoins de ce qui va se passer. Il y a 100 ans, commun, commune, comme un espoir mis au charnier, chante Ferrat. Oui, parce que parallèlement à ces belles images, eh bien, les combats font rage. Pour les conservateurs, royalistes, bonapartistes, républicains, et même désormais pour les libéraux, il faut exterminer la commune. Et les communards, ils ne sont guère plus de 60 000, dont 80% d'ouvriers, contre 120 000 soldats versaillais qui sont entraînés et commandés par le fameux Mac Mahon. Et le 21 mai, l'armée entre par la porte de Saint-Cloud et c'est le début de la semaine sanglante avec ses derniers combats à Belleville et dans le cimetière du Père-Lachaise où on trouve maintenant toujours le mur des fédérés. Pour le coup, les communards eh bien, vont en désespoir de cause incendier le palais du Luxembourg dont il ne reste plus rien à l'heure actuelle, et également l'hôtel de ville qui sera reconstruit des années plus tard. 15 000 communards vont trouver la mort sur les barricades, dans des bombardements où ils seront fusillés, des hommes, mais aussi des femmes, des vieillards et des enfants. C'est le tristement célèbre « Fusillez-moi tout ça, fusillez-moi tout ça pour l'amour de Dieu » d'Adolphe Thiers. C'est le grand nettoyage, la grande lessive. 40 000 suspects seront arrêtés dans les semaines suivantes. 400 seront déportés au bagne, en Algérie, en Calédonie, comme Louise Michel. D'ailleurs, Louise Michel, on lui accordera une petite pastille à part. Paris vivra sous état de siège jusqu'en 1878 et sera privé de maire jusqu'en 1977. Vous m'avez bien entendu, mon petit Weber ? 1977. Suite à la commune, suite à cette grande lessive, eh bien, la population parisienne aura définitivement changé. Et Paris, la rouge du temps des cerises, cessera définitivement d'exister. Ce que je vous propose, Weber, la prochaine fois, on va passer en revue les grandes chansons de la commune. Avant tout, celles de Jean-Baptiste Clément et d'Eugène Potier, que Ferrat évoque dans sa chanson.
Il y a 100 ans, commun, commune, comme ouvrier, artisan, il se battait pour la commune. En écoutant chanter Clément, devenus des soldats aux consciences civiles, c'étaient des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'étaient des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, commun, commune, comme l'espoir mis au charnier, ils voyaient mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, commun, commune, comme une étoile au firmament, il s'éteignait pour la commune. Écoute bien chanter.
C2L Radio
89.3.
Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir. des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant le corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Nous sommes entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais sur ses deux ailes. Et au cours de cette première partie de l'émission, Madame Sacha nous a replongé dans les événements qui ont marqué Paris, la France et le monde. Il y a 150 ans, entre le 18 mars et le 28 mai 1871, la Commune. Notre invité du jour, Claude Sabatier, est un spécialiste, lui, de Zola. Et il sort justement un ouvrage consacré aux écrits de Zola pendant cette période. Donc c'est l'occasion d'une entrevue passionnante au micro de Sandrine Manteau sur le divan d'Entre Loire et Loin.
Alors, Claude Sabatier, bonjour.
Bonjour.
Je suis vraiment absolument ravie de vous rencontrer à plusieurs titres. Tout d'abord, vous êtes l'ami de Daniel Plaisance.
Oui, absolument. Oui, on a été collègues au lycée en forêt pendant plusieurs années.
Voilà. Alors, Claude Sabatier, vous venez de publier le deuxième tome des chroniques politiques d'Émile Zola. C'est le tome 2, c'est 71-72.
Oui, c'est ça.
Une édition prestigieuse, on en parlait à l'instant, c'est les Classiques Garnier.
Classiques Garnier, voilà.
Et vous en êtes très fier.
Oui, je suis assez content d'être associé à ce projet, qui est un projet collectif, qui a été lancé en 2014 par Alain Pagès, qui était le président de mon jury de thèse, qui est directeur de collection chez Classique Garnier, et qui est également le directeur du Centre Zola. Et que d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai fait venir avec les Cramés de la Bobine, association de cinéma d'essai que vous connaissez sur Montargis. On l'a fait venir alors dans un cadre qui pouvait paraître un peu controversé, qui était celui de J'accuse, le film de Polanski, qui est sorti, si je me souviens bien, en janvier de l'année dernière, janvier 2020, donc peu de temps avant le confinement, c'est pour ça que j'ai ce repère en tête. Et Alain Pagès est venu, donc je le connais, puisque donc il est le directeur du Centre Zola, il a chapeauté mon travail, et il chapeaute donc la parution de l'ensemble, enfin des œuvres complètes de Zola, qui vont s'étaler sur plusieurs années. Et donc il est venu au cinéma Alticiné, pour présenter le film donc J'accuse de Polanski, qui porte sur non pas Zola mais sur le lieutenant-colonel Picard, parce qu'on oublie vrai. C'est un militaire en réalité en rupture avec sa hiérarchie, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Qui a lancé l'affaire. Et on avait invité avec les Cramés un certain Charles Dreyfus lors de cette soirée, qui n'est autre que le petit-fils d'Alfred Dreyfus.
Oh, voilà,
donc ça a été une soirée, je crois, quand même passionnante.
Ah ben, c'est extraordinaire. Ouais. Mais bon, vous avez fait venir ce monsieur Pagès, mais vous auriez pu mener la soirée.
Je ne sais pas. Honnêtement, alors par la suite, je vais essayer de publier avec Alain Pagès dans le volume 4 prévu à partir de 2024 toute la partie centrale de la production journalistique de Zola, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle la vérité en marge, il y a tous les textes qu'il a écrits autour de l'affaire Dreyfus, etc.
Vous me parlez d'un tome 4.
Oui, ça c'est ça,
c'est-à-dire
le tome 4.
Pour l'instant, il y a eu le tome 1.
Oui.
Donc 63, Zola est un jeune journaliste.
Voilà. Zola est un jeune journaliste qui s'est fait connaître. En fait, il s'est fait connaître à Paris, en fait. Hein. Il est né en 1840. Il perd son père à l'âge de 7 ans. Son père était ingénieur des ponts et chaussées. Il a donné son nom, d'ailleurs, à un canal, hein, à Aix-en-Provence.
Enfin,
il est né à Paris, mais son père est parti travailler donc, à Aix-en-Provence. Et son père donc meurt des suites d'une pneumonie qu'il a attrapé sur le chantier. Et donc après il part à Paris. Voilà. Pour la petite histoire, Zola n'aura pas son bac. Il le passe trois fois. Zola c'est quelqu'un, c'est un immense écrivain autodidacte,
oui,
qui n'a pas eu son bac et qui s'est présenté 13 fois à l'Académie française. Et qui a à chaque fois été refusé.
Oui,
tout simplement à cause de l'affaire Dreyfus, hein, d'ailleurs.
Oui, oui,
parce
voilà,
que Zola, c'est un formidable écrivain qui détestait les récompenses, mais très bizarrement, qui toute sa vie a recherché la reconnaissance.
Oui.
Notamment en se présentant à l'Académie française, évidemment contre l'intelligentsia de l'époque, parce que tous les écrivains, il y a beaucoup d'écrivains à l'époque, qui se sont mis du côté des anti-Dreyfusards, enfin des gens comme Barrès, des écrivains nationalistes, même Anatole France au début. Anatole France qui lui a rendu un superbe hommage, pourtant, lors de son enterrement, en disant que Zola, c'était un moment de la conscience humaine. Parce que l'engagement de Zola dans le journalisme, qui aboutit effectivement le 13 janvier 1898 au fameux J'accuse, c'est vraiment l'engagement de toute une vie.
Alors voilà, le truc c'est que vous me parlez vraiment du Zola Dreyfusard, de toute sa croisade Dreyfusard, il est auréolé de cela à l'heure actuelle.
Bien sûr.
Et là, dans votre tome 2,
oui,
on se retrouve face à un Zola qui n'a pas compris la Commune.
Oui, alors en fait, je ne sais pas si on peut dire qu'il n'a pas compris la Commune, mais c'est vrai que, contrairement à des écrivains comme Jules Vallès, hein, dans sa trilogie « L'enfant bachelier insurgé », Zola a été effrayé par la Commune, hein, notamment par les responsables de la Commune, le comité de salut public, hein, qui se crée après le 26 mars 1871, des blanquistes, des anarchistes, etc. Et il n'a pas vraiment pris la mesure du caractère novateur du programme de la Commune.
Est-ce que c'est pas ça qui lui a fait peur ?
Je pense que ça lui a fait un peu peur, effectivement. Ça n'empêche pas effectivement que Zola est un formidable écrivain qui va rédiger l'Assommoir en 1877 et Germinal en 1885. Mais je pense qu'il a eu peur parce que il y avait vraiment un contexte de tension très forte entre une Troisième République donc, qui est proclamée le 4 septembre 1870, après la défaite de Sedan, hein, où donc la France perd cette guerre lancée inconsidérément par Napoléon III, hein, le 2 septembre à Sedan. Et donc il y a, il y a une sorte d'incompréhension entre Paris, hein, où donc la Troisième République est proclamée le 4 septembre, Paris qui va être assiégée, hein, par les Allemands à partir du mois de septembre, pendant 5 mois, hein, ça va être des conditions terribles. Les gens vont manger les animaux, les éléphants, les girafes du jardin des plantes, tellement la disette et la misère,
ça va être
terrible.
Ils vont manger du rat et du
absolument,
vent aussi, surtout.
Absolument.
Ils vont même pas manger
même pas, ils n'auront même pas ce luxe exotique. Et donc, il y a une incompréhension entre la grande ville, hein, donc Paris, et la majorité rurale du pays, la province profonde, qui est une majorité rurale et monarchiste. C'est-à-dire qu'on va avoir au début de la Troisième République jusqu'en 1879 une sorte de cohabitation avec une assemblée qui sera aux deux tiers monarchiste.
Alors, remettez-nous vraiment, redonnez-nous les grands moments de cette commune, hein. Comme vous dites, 70, il y a quand même une chose importante, c'est que les Prussiens, ils vont assiéger Paris,
oui.
Parce qu'à l'intérieur de Paris, il y a quand même 500 000 hommes en armes.
Bien sûr.
Donc, ils se disent, c'est pas la peine d'aller à l'affrontement, ça sert à rien, on va jouer l'usure.
Bien sûr.
Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que ces 500 000 hommes armés, après, ça va créer la tension avec ce nouveau gouvernement.
Bien sûr, hein? Oui, bien sûr. Oui.
Rappelez-nous les grands moments.
Ben, en fait, la commune donc, va éclater le 18 mars hein, 1871, parce que les autorités, donc en l'occurrence Adolphe Thiers, hein, qui représenterait un peu le centre-gauche, qui est le chef du pouvoir exécutif, d'un pouvoir qui ne sera pas d'ailleurs, qui ne portera pas véritablement encore le titre de république, hein, qui sera un pouvoir donc soutenu par les orléanistes, par des monarchistes modérés. En fait, le Thiers commet l'erreur de vouloir récupérer des canons qui se trouvent à Montmartre.
Oui, et ces canons, voilà. Ils ont été achetés par le peuple.
Voilà, ils ont été achetés par le peuple. Et donc il y a un événement absolument tragique le 18 mars. Alors, à la suite, effectivement, aussi du refus des autorités qui sont à Versailles, parce que sur le plan symbolique, s'installer pour une république naissante, à la fois l'Assemblée législative et le pouvoir, s'installer à Bordeaux, hein, au début de l'année 71,
au début c'est Bordeaux,
puis à Versailles, c'est symboliquement et maladroit et je dirais même détestable.
Voilà.
Et donc il y a une surchauffe, si je puis dire, une fièvre, une fièvre obsidionale, comme on dit, qui sont vraiment. Enfin, les Parisiens ont été assiégés. Il y a une présence donc des soldats prussiens tout autour de Paris. Soldats prussiens d'ailleurs qui vont aider Thiers à écraser la commune, il faut le savoir, hein, c'est assez terrible. Hein,
en rendant les prisonniers.
Absolument, en rendant les prisonniers de guerre pour mieux écraser la commune. Et donc le 18 mars, effectivement, le pouvoir versaillais veut récupérer ces fameux canons hein, de Montmartre, Belleville, et deux généraux, le général Lecomte et Clément Thomas, vont être tués par leurs propres hommes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur,
moi, je croyais que c'était par les communards.
Les communards, mais également leurs propres hommes. Il y a une véritable insurrection des gardes nationales. Parce qu'effectivement, les Parisiens se sont constitués en garde nationale. Et c'est cette fédération des gardes nationales qui va donner lieu le 26 mars donc à la création de la commune.
Et ce sont les femmes quand même.
Oui, bien sûr.
Qui protègent les canons et qui vont réussir à faire fléchir les soldats.
Exactement.
Ouais, vous parlez
des femmes. Oui, c'est femmes. Alors justement, puisque vous parlez des femmes, il y a Louise Michel qui a joué un rôle très important et dont on a publié récemment les mémoires.
Sans doute, mon amour. On n'a pas eu de chance, il y avait la guerre, et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir, en des temps plus faciles, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit avec toi, je vais aux barricades, la place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernier culbute, une balle en plein front. Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères, malheur à qui nous vole en nous avilissant.
Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre, il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître, la commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.
J'aimerais exercer un métier pour venir en aide aux autres, où l'humain est la priorité. Tu as une idée ?
Deviens aide-soignant ? Renseigne-toi auprès des instituts de formation du Centre Val-de-Loire. Les infos sont sur centre-val-de-loire.paps.santé.fr.
Une opération de la région Centre Val-de-Loire, de l'ARS Centre Val-de-Loire, avec les fédérations d'établissements sanitaires et médico-sociaux.
C2L, plus proche de vous.
C2L Radio.
C2L, la radio de l'Est du Loiret.
Vous écoutez C2L, nous sommes entre Loire et Loing, c'est le magazine du Gâtinais. Et je vous rappelle que nous recevons aujourd'hui Claude Sabatier pour son nouvel ouvrage consacré à Zola pendant la période de la Commune. L'occasion de nous parler de tout ça et dont je vous rappelle que c'est le 150e anniversaire.
Parce qu'on a, bon, on fête les 150 ans de la Commune et on a pas mal de...
Bon alors, mais là, c'est vrai qu'on est en train de faire une émission sur la Commune,
oui.
Or... Zola, quand est-ce qu'il est à Paris ? Quand est-ce qu'il part de Paris ?
Alors Zola est à Paris, donc il vit à Paris, hein, il vit au Batignolles. Mmh. Et justement, alors ce qui expliquerait aussi un petit peu ça, son angoisse, c'est qu'il est, il est arrêté par un soldat, par un communard à la gare Saint-Lazare, hein, au début, je crois que c'est début, c'est début mars justement, lorsque la Commune vient d'éclater. On lui demande où il va, il explique qu'il va à Versailles, parce qu'il donc il est chroniqueur parlementaire,
voilà,
pour l'Assemblée donc législative. Il assiste aux séances de l'Assemblée législative, de, on va dire, de son installation en février 1871 jusqu'à fin août 1872. Et deux jours après, c'est un Versaillais, c'est un soldat versaillais qui lui demande où il va à Paris. Parce qu'effectivement, les échanges en train, en particulier entre Paris et Versailles, sont limités. Donc je pense qu'effectivement, il y a cette atmosphère qui lui fait peur. Et puis ce qui est très caractéristique chez Zola, c'est qu'il a, et ça expliquerait à mon avis, cette sévérité étonnante qui manifeste, pour, non pas pour le peuple parisien, mais pour les communards, c'est-à-dire le pouvoir insurrectionnel. En fait, Zola a une admiration pour le peuple, hein, le peuple en marche, qu'on voit dans Les mineurs en colère, qu'on voit dans Germinal, ou les gens du peuple, comme Gervaise, cette lingère, Lavandière, qui va connaître une ascension, puis une terrible déchéance dans l'Assommoir. Mais il a une véritable, parallèlement à cette passion pour le peuple, il a une véritable méfiance à l'égard des intellectuels.
Ouais.
Et cette méfiance à l'égard des intellectuels frottés de politique, qui ont peut-être mal compris, qui sont souvent autodidactes, comme lui d'ailleurs. Je pense
comme
que c'est
lui.
Aussi un autoportrait, d'une certaine
c'est
manière, qu'il fait. Très intéressant. Parce qu'en fait, il a tout appris par lui-même, Zola. Hein, il perd son père à l'âge de 7 ans. Il lit par lui-même. Alors, il commence d'ailleurs à travailler dans le journalisme en tant que... avant d'être journaliste, il travaille chez Hachette. Il est chef de publicité. Il est commis, expéditeur.
Commis.
C'est-à-dire qu'il il emballe les livres. Et après... Chez Hachette, il va donc devenir chef de publicité. C'est-à-dire qu'il va écrire des articles sur les livres que publie Hachette. Et il va donc entrer en relation avec des journalistes, il va être lui-même par la suite journaliste et il va devenir également critique et il va entrer en relation avec des écrivains, des éditeurs. Mais pour revenir à votre question, oui, Zola a une sorte de méfiance pour les intellectuels qui s'intéressent à la politique et qui deviennent des idéalistes. Et ça, on le voit par exemple très bien dans Germinal.
D'accord.
Le héros de Germinal, hein, c'est Étienne. Hein, Étienne Lantier. Moi, j'ai toujours l'image de Renaud qui a joué dans le... qui joue très bien, hein, d'ailleurs, dans le film de Claude Berry.
Il nous a donné vraiment
Moi, je trouve que c'est une très bonne adaptation.
Sur ce personnage. Ouais, ouais.
C'est une très bonne adaptation.
Ouais,
franchement. Et on voit que, en fait... comment dirais-je, il vient de Lille où il a été licencié. Il arrive donc à Monceau et en fait il a beaucoup lu. Il tient des discours évidemment sur l'abolition du salariat, sur le prolétariat, sur la révolution. Il y a la figure l'anarchie, il y a une figure souveraine qui représente un peu Bakounine. Et Zola, en fait. Parallèlement à cette admiration pour le peuple, se méfie de cet idéalisme un peu fumeux. Et je pense en fait que dans l'esprit de Zola, et c'est ce qui expliquerait son incompréhension programmatique de la Commune, il y a cette peur en fait des dirigeants. Hein, et qu'on va retrouver d'ailleurs tout au long de la Troisième République dans sa critique du parlementarisme et de l'opportunisme. C'est-à-dire que Zola, c'est un chroniqueur parlementaire qui est fasciné par la politique et qui en même temps est très critique. Parce que pour lui, les hommes politiques sont des gens opportunistes. Sont des gens qui sacrifient souvent leurs convictions à des considérations purement réalistes.
Donc vous dites, Claude, que Zola... n'aime pas ces idées nouvelles que va développer la Commune. Quelles sont ces idées ? Rappelez-nous.
Alors,
quelles sont ces idées ?
Les idées de la Commune...
Elles sont extraordinaires.
Alors, il y a des idées, effectivement, que dont Zola ne parle pas beaucoup dans son livre, mais qui sont très importantes. Il y a déjà l'idée de séparation de l'Église et de l'État.
Voilà. Hein,
qui n'interviendra, comme on sait, avec la loi de séparation...
30 ans plus tard.
Voilà, en 1905. Et il y a l'instruction laïque gratuite et obligatoire qui interviendra avec les...
Pour les femmes et pour les filles,
voilà,
et pour les garçons.
Voilà aussi. Hein, donc là, il y avait eu déjà une première ouverture dans les régimes précédents. Il y a aussi les corporations, la mise en place de corporations. Alors, il y a aussi des mesures. Je vous donne un exemple de mesure que Zola... n'aime pas, c'est l'interdiction du travail de nuit pour les boulangers.
Ah oui.
Voilà. Alors, il fait une petite fixation là-dessus, parce qu'effectivement, il faut bien que les boulangers travaillent, et on imagine mal qu'ils puissent ne pas travailler la nuit. Donc, voilà. Et il trouve que c'est un exemple de mesure un peu dogmatique, et un peu systématique. Bon, c'est vrai, mais je pense qu'effectivement, il n'a... pas forcément pris la mesure de toutes ces de toutes les décisions qui ont été prises, par exemple la loi sur les échéances et donc le moratoire sur les loyers pour les familles les plus pauvres, qui ont été décidées par la Commune.
Également, je crois, plus de retenue sur les salaires.
Voilà, absolument.
L'interdiction de l'usure.
L'interdiction de l'usure, voilà. Il y a quand même un certain nombre de mesures sociales qui ont été prises.
La possibilité, aux travailleurs de récupérer les usines quand les patrons veulent fermer ces usines.
C'est un peu le principe de l'autogestion, finalement, ou des SCOP qu'on aura plus tard, avec l'IP, ou qu'on attend encore.
Voilà. Non. C'est surtout ça.
Oui, qu'on attend encore, et quand on voit toutes les usines comme Bridgestone qui ferment et où on se dit effectivement, oui.
Alors toutes ces idées progressistes, elles viennent de loin. Zola a eu le temps de les voir venir quand même.
Bien sûr.
Parce qu'il y a eu, toutes les révolutions. Il y a eu celle de 1789. Je vous disais que
sans doute,
les gens qui ont vu arriver la Commune se sont dit ça y est, ça recommence.
Oui, bien sûr.
Ça.
Il y a eu celle de 1848.
Il y a eu 48.
Oui.
Et surtout 48.
Bien sûr.
Et puis il y a eu... après, la France est secouée de multiples grèves.
Absolument.
Un peu partout dans ces grandes villes industrielles.
Alors justement,
ils ne sont pas à Paris d'ailleurs.
Oui, oui, absolument.
Les grandes industries, c'est pas à Paris.
Non, effectivement, c'est dans le nord, dans l'est.
Mais au Creusot.
Au Creusot, voilà. À Douai aussi. Oui, sur Saint-Étienne, oui, la Passementerie, par exemple. Oui.
Donc toutes ces idées viennent de là.
Toutes ces idées viennent de là. Et justement, dans le volume 1 des Chroniques politiques, j'évoque la fin du Second Empire, hein, puisque donc le volume 1 des Chroniques politiques est consacré donc au début de Zola journaliste. Hein, Zola commence en 1863 dans des journaux provinciaux, notamment le Salut public, par exemple, de Lyon. Et un autre journal, qui est le Journal populaire de Lille. Et ce qui est très intéressant, c'est que Zola va écrire dans les journaux républicains à la fin du Second Empire. Mmh. Parce que le Second Empire, qui est né, il faut le rappeler, d'un coup d'État.
D'un coup d'État. Hein,
parce que c'est unique dans notre histoire de France. Le président de la République élu en décembre 1848, qui s'appelle donc Louis-Napoléon Bonaparte, petit-neveu de Napoléon Ier, ne se contente pas, ne se satisfait pas d'être seulement président. Et donc il va faire un coup d'État qu'il va avaliser, si je puis dire, par la proclamation de l'Empire un an plus tard, le 2 décembre 1852. Et donc tout au long de l'Empire, effectivement, alors il va y avoir un développement du mouvement ouvrier, puisque c'est aussi évidemment la révolution industrielle. Ce mouvement ouvrier qui s'était manifesté, par exemple, déjà dans les années 30.
Oui, hein,
dans Les Misérables, il y a avec le personnage de Gavroche, c'est pas Cosette, il y a une scène célèbre, hein, qui est le massacre de la rue Transnonain. En 1832, il y a eu des émeutes républicaines. Donc il y a un mouvement républicain. Donc Zola écrit un texte absolument vibrant, justement en faveur des républicains, où il évoque la misère et où il dénonce évidemment la bêtise autosatisfaite des monarchistes.
Donc dites-moi, mais je connais la réponse. Zola, est-ce qu'il va regretter d'avoir mal analysé la commune et d'avoir si durement jugé les communards? Entre autres, on parlait tout à l'heure de ce livre, La Débâcle.
Oui.
Vous me disiez que c'était l'un de ses derniers romans.
Oui, voilà, c'est l'un des derniers romans qui a été écrit en 1892, où effectivement, il met en scène, et je crois que c'est intéressant parce que ça montre bien, encore une fois, ce divorce chez Zola entre l'action ou le peuple d'un côté et la réflexion intellectuelle et la spéculation intellectuelle dont il se méfie, alors que lui-même est un intellectuel. C'est ça qui est très, très, très intéressant. Il y a deux frères, deux amis qui s'affrontent, hein, qui ont donc Jean, qui est un paysan, hein, et qui va combattre,
en fait,
voilà, c'est un paysan, donc qui représente effectivement cette France rurale conservatrice, puisque en fait cette France rurale, elle est plutôt monarchiste. Il y a deux familles de monarchistes, il y a la famille orléaniste, ceux qui ont eu le pouvoir sous la monarchie de Juillet, sous Louis-Philippe, entre 1830 et 1848, et puis la famille légitimiste, c'est-à-dire les Bourbons, qui ont exercé le pouvoir sous la Restauration entre 1815 et 1830. Et effectivement, donc Jean va être amené à retrouver son ami, donc Jean Macquart.
Hein, oui, d'accord.
Puisqu'il y a deux familles, germinatives, originelles, les Rougon et les Macquart. Et donc la famille Macquart, Jean Macquart, qui va retrouver Maurice Levasseur, qui est un intellectuel, hein, et qui avec lui donc combat les Prussiens au début du roman, et il va le retrouver au moment de la Commune, et là ça va être l'affrontement. Parce que Zola aime bien, un peu comme Hugo, hein, il aime beaucoup les antithèses, les affrontements épiques et symboliques entre, je dirais, alors c'est assez dur ce qu'il appelle la partie saine du peuple, c'est-à-dire ici Jean, paysan. Et puis effectivement l'intellectuel
qui se laisse en fait
embarquer voilà.
D'une façon assez lyrique en fait, oui.
Par les idéaux de la commune. Alors c'est vrai que quand on lit les textes de Zola sur la commune, on est surpris, mais en même temps dans ses lettres de Paris, puisque ce sont des lettres qu'il écrit de Paris pour un journal conservateur et orléaniste qui s'appelle le Sémaphore de Marseille, en même temps il témoigne d'une très grande compassion pour le peuple parisien. Lorsqu'il évoque justement tous les cadavres, vous savez que il y a eu cette fameuse semaine sanglante, parce que la commune a duré, je crois, 73 jours.
73.
Voilà, on va dire 73 jours en gros. Donc du 18 mars au 28 mai. Et lorsque les Versaillais sont entrés dans Paris, le 21 mai, ça a été la semaine sanglante. Hein. Ils sont entrés par la porte de Saint-Cloud.
Ils sont 120 000.
Voilà, ils sont 120 000, c'est ça.
Et de l'autre côté,
130 000. Et de l'autre, ils doivent être 30 000 à peu près. Hein, quelque chose comme ça. Hein.
Voilà, alors, il y en a de moins en moins, parce que c'est vrai que le peuple s'est désolidarisé de plus en plus des communards.
Oui, bien sûr.
Et ils sont des gens qui... pour certains, ne sont pas armés, en fait.
Bien sûr, oui, bien sûr. Alors, ce qui fait peur à Zola, c'est effectivement une certaine violence de la commune, puisque la commune mais sans oublier, bien sûr, aussi l'extrême dureté des Versaillais, mais la commune a édicté une loi des suspects, qui peut faire penser aussi un peu à la terreur de 1793. On peut faire le parallèle, je pense. Il y a toujours cet emballement et cette dérive violente dans les révolutions. Il y a l'archevêque Monseigneur Darbois qui a été exécuté.
D'accord.
Donc c'est aussi un acte symbolique très fort. Et puis...
Donc la semaine sanglante.
La semaine sanglante, c'est un affrontement rue par rue avec Mac Mahon, absolument. Mac Mahon qui va devenir le 24 mai 1813 le nouveau président de la République, lorsque Thiers, qui a essayé de maintenir la République face à l'Assemblée monarchiste, lorsque Thiers sera donc blackboulé, sera en quelque sorte remercié par la majorité monarchiste. Et c'est Mac Mahon qui a effectivement, c'est le maréchal Mac Mahon qui a écrasé la commune.
Restons sur la semaine sanglante, ça va être terrible, va être une extermination.
Ça va être une extermination rue par rue. Alors, ce qui fait très peur à Zola, c'est qu'effectivement, les communards n'hésitent pas à incendier aussi cette maison.
Donc
il y a eu l'hôtel de ville, les Tuileries.
Et les Tuileries qui disparaissent.
Voilà, qui disparaissent. Voilà. Effectivement.
Symbole vraiment de l'impérialisme en l'occurrence.
Symbole de l'impérialisme. Voilà. Alors il y a aussi bien sûr la colonne Vendôme aussi qui est. Qui avait été détruite auparavant. Alors on a accusé Courbet qui était. Le responsable de la Fédération des artistes d'être à l'origine, le peintre Gustave Courbet, ce n'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, Zola, qui a beaucoup de sympathie pour Courbet, qui est le grand peintre réaliste et qui serait un petit peu l'équivalent en peinture de son esthétique naturaliste en littérature, le défend, tout en estimant qu'il a lui aussi été un peu emporté par cet idéalisme révolutionnaire. Mais Zola a quand même un discours très plein de compassion pour le peuple parisien et pour les soldats qui se sont... Enfin, tous ces gardes nationaux, finalement, qui se sont impliqués dans la commune, lorsqu'il évoque, dans les dernières pages de ses lettres de Paris, les combats qui ont lieu jusque dans les cimetières, notamment au Père-Lachaise, où 150 communards ont été exécutés le long du fameux mur des fédérés. Voilà.
Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvant du... Au mur.
Qu'avez-vous fait ?
Je suis des vôtres, je suis vicaire à Saint-Bernard. J'ai dû, pour échapper aux autres, rester 8 jours dans un placard.
Qu'avez-vous fait ?
Oh, pas grand-chose, de la misère et des enfants. Il est temps que je me repose, j'ai 70 ans. Allons-y tout de suite, et fusillez-moi vite.
Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvant du... Au mur.
Qu'avez-vous fait ?
Voici les listes avec les noms de 100 coquins, femmes et enfants de communistes. Fusillez-moi tous ces gredins.
Qu'avez-vous fait ?
Je suis la veuve d'un officier mort au Bourget. Et tenez, en voici la preuve. Regardez, s'il vous plaît.
Oh, moi, je porte encore mon brassard tricolore.
Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvant dur. Au mur.
Qu'avez-vous fait ?
4 blessures, 6 campagnes et 2 congés. Je leur en ai fait voir de dur. Je suis Lorrain, ils sont vengés.
Qu'avez-vous fait ?
Moi, j'étais dans une ambulance. Les femmes ne se battent pas. Et j'ai soigné sans différence fédérés et soldats. Moi, je m'appelle Auguste. Et j'ai 13 ans, tout juste.
Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvant dur. Au mur.
Qu'avez-vous fait ?
Oh, je suis morte, un soldat, sans doute enivré, a tué mon père à sa porte, et mon crime est d'avoir pleuré.
Qu'avez-vous fait ?
Sale charogne, fais-moi vite trouer la peau, car j'en ai fait de la besogne avec mon chasse-peau. Et d'un, tu vois ma lune, et deux, vive la commune.
C2L Radio.
C2L.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin sur C2L, c'est le magazine du Gâtinais. Et sur notre canapé, c'est toujours Claude Sabatier qui s'entretient avec Sandrine Manteau de la commune et de tous les événements qui ont marqué Paris il y a maintenant 150 ans.
Et ce qu'il faut dire également pour équilibrer ce propos un peu dur de Zola en apparence sur... l'insurrection communarde, en tout cas sur ses responsables, c'est qu'il est extrêmement dur également avec les Versaillais.
Ah oui, mais
avec le pouvoir, d'Adolphe Thiers. Parce qu'il faut savoir que, outre le siège de Paris, les Parisiens réclamaient ce qu'on appelait les franchises communales et le droit d'élire leur maire. Ouais. Et ce droit d'élire leur maire, d'élire les maires de l'arrondissement et leur maire, leur a été refusé. Et dès les première semaine où siège cette nouvelle assemblée législative élue en février 1871, les républicains qui siègent à l'Assemblée, alors notamment Gambetta, hein, qui va jouer un rôle beaucoup plus important par la suite, mais qui est le, comment dirais-je, qui est le responsable avec le général Trochu du gouvernement de défense nationale. C'est lui qui va essayer de poursuivre la guerre.
Hein, parce qu'il faut,
voilà. Il faut savoir que le Second Empire a déclarer cette guerre et donc chute avec la défaite, mais que les républicains veulent poursuivre la bataille.
La bataille.
Et donc Gambetta part,
son
ballon, son dirigeable, il va à Tours, d'où il essaie de recréer une armée de la Loire qui veut essayer de libérer Paris. Bon, ça ne va pas marcher, il va y avoir la fusion entre l'armée du Nord de la Loire et une armée parisienne. Et en fait, dans les premières pages de ses chroniques parlementaires, Zola est très très dur pour les monarchistes. Et, alors, même s'il est un peu moins pour Adolphe Thiers, il se rend bien compte que Adolphe Thiers est l'otage de cette majorité monarchiste. Et Adolphe Thiers se méfie de Paris. Parce que vraiment, Paris, c'est la ville révolutionnaire.
Paris, c'est la ville révolutionnaire. Mais dites-moi davantage sur Adolphe Thiers. Son passé politique, c'est quoi ?
Alors, Adolphe Thiers a été, en fait, un peu comme Guizot, a été ministre, sous Louis-Philippe.
Bah
voilà.
Oui,
donc, il appartient aussi à l'ancien monde, si on peut dire, de l'ancien régime. Et voilà, donc c'est aussi un personnage très ambigu. Alors, Zola en parle très bien, parce qu'il a beaucoup d'admiration pour Thiers au début de cette Troisième République. Il le présente comme un homme très habile, avec sa voix un peu aigre, son côté un peu assez autoritaire, et en même temps cette souplesse rhétorique qui le caractérise. Et Zola est fasciné par certains hommes politiques. Il est fasciné par Adolphe Thiers. Oui. Il est fasciné par Louis Blanc. Louis Blanc, qui est l'un des révolutionnaires de 1848, à l'origine des ateliers nationaux, de tout le programme révolutionnaire. Il est fasciné par Garibaldi aussi, parce qu'on voit défiler dans ses chroniques parlementaires Garibaldi, Victor Hugo, qui va d'ailleurs démissionner parce qu'il est écœuré par ce jeu parlementaire qui lui échappe un peu. Et effectivement, Adolphe Thiers, c'est un peu l'homme nécessaire que les monarchistes acceptent, même s'ils vont s'en débarrasser le 24 mai 1873. Mais ce n'est pas... si vous voulez, Adolphe Thiers représente la... ce qu'on pourrait appeler la République libérale, c'est-à-dire la République, on va dire, de centre-droit, et pas du tout la République démocratique et sociale
que la Commune va représenter,
que réclame la Commune. Donc, ce qui est très intéressant...
C'est pour ça qu'on passe du drapeau tricolore au drapeau rouge.
C'est ça.
Parce que une République félonne qui ne va pas au bout des idées.
Absolument. Donc, la République, la Commune, alors qui aujourd'hui, enfin, qui peut-être pas aujourd'hui en 2021, où on célèbre ses 150 années, mais la Commune, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est un peu c'est le drapeau rouge, c'est la révolution sanglante, mais on oublie que la Commune, c'est un mouvement donc lié à l'exaspération du siège de Paris, c'est un mouvement lié au divorce en politique entre Paris et la province, lié à des débuts monarchistes d'une Troisième République, qui va mettre 8 ans jusqu'aux lois constitutionnelles adoptées par le Sénat en 1979 à devenir une république pleine et entière. Donc la Commune, c'est pas simplement un mouvement qui a été dirigé par des révolutionnaires ou des anarchistes, c'est un mouvement qui est le fruit d'une exaspération obsidionale par rapport au siège et d'une frustration républicaine totalement authentique par rapport à une Troisième République naissante qui n'est pas véritablement démocratique et sociale.
Et puis, de toute façon, c'est l'émergence inexorable de la société prolétarienne qui a été voulue par la bourgeoisie.
Bien sûr.
Avec tout, avec le monde industriel.
Bien sûr. L'histoire d'un très grand cynisme, cette République, finalement, va se faire accepter par un bain de sang. C'est-à-dire que la République va asseoir son autorité et va montrer aux monarchistes qu'elle est capable de réprimer des révolutions. Donc c'est une république qui s'installe quand même dans le sang.
Moi je trouve qu'il y a une petite résonance avec l'époque moderne.
Oui, bien sûr qu'il y a une résonance avec l'époque moderne. Aujourd'hui c'est une interdiction de manifester pour la cause palestinienne par exemple, ce qui me paraît proprement scandaleux.
Écoutez, on pourrait en parler encore des heures, c'est fabuleux. D'ailleurs, concernant ces deux livres qui sont déjà très beaux en jaune.
Oui. Oui.
Ils existent. Encore plus beaux en rouge et encore plus chers.
Voilà. Oui, on va pas donner le prix des livres reliés, mais enfin bon, ce sont
magnifique.
De beaux livres de collection.
C'est très lourd, c'est vraiment très lourd. Là, c'est un petit peu moins lourd.
Mais ceux-là sont moins chers en prix hauteur.
Vous gagnez le plus sur lesquels ?
Écoutez, je gagne 5%. Sur un livre qui coûte 41 euros en prix hauteur.
Alors, Claude, j'aimerais vous entendre encore des heures.
Merci.
Vous savez, moi, je suis une chanteuse. Alors, il y a « Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres ». Voilà, c'est « Parlez-moi d'histoire, redites-moi tant de choses passionnantes ». Mais vous savez aussi parler à la chanteuse, puisqu'on se reverra très prochainement, s'il vous plaît. On se donne rendez-vous pour ce livre-là. C'est donc le livre que vous consacrez à Tachan, n'est-ce pas ? Qui a été Henri Tachan, qui est de votre famille d'ailleurs.
Oui, c'est ça, je suis son petit cousin.
Mais je pense que vous n'avez pas besoin d'être son petit cousin
pour être passionné par la chanson française.
De Tachan, entre autres.
Voilà.
Voilà, donc ça sera formidable de...
Voilà, Oui, c'est un livre qui a eu qui est paru en 2002 et qui a eu en même temps qu'un livre sur Jean Ferrat de Jean-Christophe Brière, je ne me souviens plus exactement, qui a eu un prix, un coup de cœur en littérature musicale de l'Académie Charles Cros. Et Tachan a eu, lui, un prix pour l'ensemble de sa carrière. Voilà. C'est un grand, grand chanteur de la génération de Brel et de Brassens.
Il va falloir en parler, presque le réhabiliter, hélas.
Oui, le faire connaître, surtout du grand public, parce qu'il a fait une carrière très riche, plus de 200 chansons, de 1965 à 2012, et un talent fou, une présence scénique extraordinaire.
On en reparle bientôt, et vraiment merci mille fois.
Merci beaucoup, Sandrine.
Nous étions entre Loire et Loing. Claude Sabatier était notre invité du jour. Il était interviewé par Sandrine Manteau et c'était l'occasion pour nous de nous remémorer un peu les événements de la commune dont on fête les 150 ans. Autre anniversaire la semaine prochaine, celui de l'arrivée de la gauche au pouvoir en mai 81. C'était il y a 40 ans. Et nous évoquons tout ça en compagnie de Margit Danel qui a très bien connu toute cette période et qui en a même été une actrice puisque très liée, très proche du couple Mitterrand et de Jacques Attali et tout ça. Donc elle nous racontera plein de choses. À la semaine prochaine donc sur ces deux ailes. D'ici là, retrouvez-nous sur les internets, sur Facebook, sur YouTube. C'était Pascal Weber au micro et à la réalisation. Portez-vous bien.